L'Afrique, l'Amérique latine, l'Asie, ce sont les trois continents à l'honneur depuis près de 45 ans à Nantes, fin novembre. Bonjour à tous, je suis Pierre Charpioz et vous écoutez La Grande Vadrouille, le Tour de France des festivals de cinéma par Revue et Corrigée. De retour au Festival des Trois Continents aujourd'hui, nous allons voir comment les films de demain naissent aussi à Nantes avec le programme Produire au Sud. Mais tout d'abord, nous allons parler d'une star, d'une icône, le plus grand acteur du monde selon le Times et la BBC. Il rassemble des milliers de personnes à chaque apparition publique. En Inde, il est plus qu'une star, il est un mythe vivant. Impossible de faire une centaine de mètres dans les rues des grandes villes du sous-continent sans voir un portrait à son effigie. Il est passé du jeune homme en colère à la figure de père sage et respecté. C'est Amitabh Bachchan, Big B, acteur de plus de 200 films indiens, dont le Festival des Trois Continents organise une rétrospective. Et pour en parler, nous avons rendez-vous avec sa fille, Shweta Bachchan Nanda. Nous voici à l'Hôtel de France en compagnie de Shweta Bachchan Nanda, qui est écrivaine, journaliste, mais aussi la fille d'Amitabh Bachchan, une légende du cinéma indien que le Festival des Trois Continents célèbre aujourd'hui. Bonjour Shweta. Hello Shweta.
Bonjour.
Vous parlez français, you speak French.
I studied in Switzerland for 5 years, so un petit peu.
Ouais, vous dites, vous avez étudié en Suisse pendant quelques temps, donc vous parlez peut-être un tout petit peu français, mais on va malgré tout faire cette interview en anglais, ce sera plus confortable. Le nom de cette rétrospective, c'est Big B Forever. Pourquoi est-ce qu'on le surnomme Big B, Amitabh Bachchan?
I think it was a name given to him by a journalist. I think Big is self-explanatory, and B because of Bachchan, the last name, so that's why.
Je pense que c'est un journaliste qui l'avait surnommé comme ça. Big, évidemment, tout le monde comprend. Et B, à cause de Bachchan. Voilà, la première initiale de son nom.
Alors, cette rétrospective nous emmène à découvrir une série de films situés entre les années 70 et 80. À quel moment il entre dans le cinéma? Son premier film, c'est quand? Et ça se passe comment?
His first film was Saat Hindustani. And I think it was in 1969, sorry, yes.
Donc le premier film, c'est...
1969.
Oui, en 60... Indostani. Oui, c'est ça. Sept Indiens, et c'était donc en 69.
Et quel était son parcours? Comment est-ce qu'il est devenu acteur?
My father always had a healthy interest in theater, and he participated in a lot of theater in his school and college days, and then he worked in shipping in Calcutta for a while, and even there he was very active in the whole theater scene. So I think that is where his main passion came from. My grandmother was also involved with theater, and my grandfather is a very eminent poet in India who has translated a lot of plays, also a lot of Shakespearean plays into Hindi. So I think that is where, you know, the spark for dramatics came.
Bien. Eh bien, mon père, le théâtre l'a toujours intéressé. Il a toujours adoré le théâtre. Quand il était à l'école, il a joué dans des pièces de théâtre. Au début, il ne travaillait pas dans le cinéma. Il a même travaillé un peu pour l'industrie nautique au début. Mais il se trouve que ma grand-mère l'a beaucoup influencé. Ma grand-mère a traduit des pièces de Hindi, elle a traduit des pièces de Shakespeare. Mon grand-père est aussi un poète très célèbre, donc il a baigné dans cet univers.
À quel moment sa popularité commence à se développer, à apparaître? Il se fait connaître d'abord comme le jeune homme en colère, the young angry man. Comment est-ce qu'il devient connu en quelque sorte?
So I think The Angry Young Man, the whole era of The Angry Young Man started with his movie Zanjeer, where he played a very angry self-righteous cop. And it was, I think, mainly through the writings of Salim Javed, who created this phenomena, which is today known as The Angry Young Man. And I think at that time, he came to represent you know, what was going on in society. The youth was very disenfranchised. There was a paucity of jobs. And you know, it was sort of like a rebellion, a silent rebellion against the system, which he, you know, which he then symbolized on screen and young audiences and audiences actually everywhere identified with it.
Je pense que c'est l'époque qui voulait ça. On a pensé que c'était ce jeune homme en colère et petit à petit, il a représenté le symbole de ce que ressentaient beaucoup de jeunes à l'époque en Inde. Il y avait beaucoup de chômage à l'époque. Il y avait ce sentiment de rébellion qui a grandi en Inde et petit à petit, avec le film Angie, et puis avec les romans, je crois, de Céline Gervais. Oui. Je pense que ça a contribué à sa célébrité, et puis petit à petit, il est devenu cette icône des rebelles, en fait.
Alors là, il y a une sélection de films qui est montrée. Il a tourné dans plus de 200 films, donc on n'en voit qu'une petite sélection ici à Nantes avec ses 9 films programmés. C'est des films de quel genre et cette programmation de films ici, finalement, à quel point elle est représentative de sa carrière?
Yes, it is hard to distill a career that has spanned plus 50 years into 9 films, but I think these films have been very well curated, and they do represent aspects of his on-screen persona. So whether you have the angry young man, you have the romantic hero, you have the comedy, action comedy hero, all the different genres that he excelled in, I think there are bits of it in all the movies, and it's like a good synopsis of his work over the years.
Je pense qu'en fait, c'est un bon résumé. Je pense que la sélection a été très bien faite. Les films ont été parfaitement restaurés aussi. Et on a à la fois des comédies, à la fois des films, des romances, et puis ce que vous disiez, le jeune homme en colère. Hein. Donc tous les genres sont représentés dans ces 9 films.
Oui, c'est effectivement des films des années 70-80. On l'a encore vu dans des films très récemment, en 2019, je crois, si je dis pas de bêtises. Mais est-ce que ces films anciens, des années 70-80, qu'on voit là, est-ce qu'ils sont encore vus aujourd'hui en Inde?
So it was last year, on his 80th birthday, that the Film Heritage Foundation of India, run by, helmed by Shivendra and Tisha, did a retrospective on my father. And, these were the selection of films. For the first time, a very young, different audience got to see him on screen. The films were restored, they were cleaned up, and, there were normal shows, and it was a massive, massive success. So, it goes to show that the youth is still interested in works that were done before them. The youth know him today in a very different persona, but I think they got to see his style and what impact he has had on motion pictures, Indian motion pictures, with the screening of this retrospective.
Oui, bien en fait, l'an dernier, pour les 80 ans de mon père, il y a une rétrospective qui a été organisée par la Fondation pour le patrimoine du cinéma indien, par Shivanda et Tisha. Et à l'occasion de cette rétrospective, les films ont été restaurés et ces 9 films ont été montrés un peu partout en Inde. Et en fait, il y avait un public jeune qui s'intéressait à la fois à l'histoire du cinéma et à ce que Amitabh Bachchan représentait pour le cinéma indien. Donc oui, ça a été un grand succès.
C'est aussi une des rares stars du cinéma indien à jouer dans un film américain. Je pense à le film de Baz Luhrmann, Gatsby le Magnifique. Ça se fait comment et qu'est-ce que ça symbolise aussi? Parce que c'est assez paradoxal finalement, cette fame, cette reconnaissance très très importante en Inde et finalement beaucoup moins dans le monde européen. Ici par exemple à Nantes, quelque part il a fait aussi le pont avec cette présence dans un film américain.
Well, I think Mr. Luhrmann is a friend of my father's, and he asked him to do this role. He said it's a small guest appearance, and my father obliged. And it was always a, it's a pleasure to work in, you know, with Mr. Lerman is such a fantastic director. As far as his you know, his fame or popularity in America, we have a huge diaspora in America, and they consume a lot of Hindi films, and a lot of the people that immigrated to America were children of the 70s and 80s. Today they are, you know, professionals, they're doctors, they're in Silicon Valley. So he was the hero of their youth. And I think when you know, they grow up, he is their nostalgia, he is their memory of home. And I think that is what makes him so recognized and popular in countries like America that are not, you know, not just India or Indian based countries or Hindi based countries.
Oui, en fait, il se trouve que Monsieur Lerman est un ami de mon père, donc bien entendu, il a accepté de tourner dans le film qu'on lui proposait. Mais pour la raison de son succès aux États-Unis, je pense qu'il y a quand même une communauté indienne importante. Hein. Il y a beaucoup d'Indiens qui ont émigré, y compris dans la Silicon Valley. Il y a beaucoup. Et mon père représente aussi leur jeunesse. Il y a une certaine nostalgie à regarder ces films des années 70-80. Donc, il y a quelque chose d'iconique et de nostalgique, hein, dans le fait que ces films-là soient célèbres aux États-Unis.
Qu'est-ce que vous diriez à un public français qui, par exemple, découvre ces films ici à Nantes ? Qu'est-ce que vous leur diriez pour les encourager, peut-être tout simplement, à voir ces films et à refaire un peu cette histoire du cinéma indien ?
It's a very different kind of filmmaking. You have in the space of maybe 2.5 hours. They're long, first of all, our films. In a space of 2.5 hours, you will have drama, you will have romance, you will have melodrama, you will have comedy and a musical. So, you know, for what it means to us Indians is the ultimate form of entertainment, where you have a little of everything. And it's a great form of escape, which I think has appealed to the masses for, you know, this is why they go to the movies. They leave behind their troubles in a cinema hall or whatever the daily drudgeries are, and they enjoy a film, and you know, they look up to the movie star. So I would tell a French audience to expect something very different, very colorful, and to be able to see the culture of a different country through a very, very, very magnified lens, because what you see on screen is actually what it is, what, you know, what our lives are. It has the essence. We're very emotional people, very passionate people, and that comes across in our movies.
Un public français, je crois que je dirais qu'il faut s'attendre à quelque chose de totalement différent de ce à quoi ils sont habitués, parce que d'une part, les films sont longs, c'est au moins 2h30 à chaque fois, et dans un film de ce type, on trouve absolument tout. On trouve à la fois les éléments de la comédie musicale, de la tragédie, de la comédie, du drame. On va trouver tout ça dans un seul film. Et puis en même temps, c'est une façon de voir la culture indienne à travers une loupe. Hein, tout est mis en avant, tout devient extravagant, mais en même temps, c'est une façon d'échapper à la difficulté du quotidien. Et je pense que les gens vont surtout au cinéma en Inde pour se distraire. Hein, c'est une grande distraction, une échappatoire.
C'est vrai que les films indiens gagnent de plus en plus en popularité, même ici en France, en partie grâce aux plateformes. On en voit de plus en plus de films récents, mais c'est vrai que grâce à Nantes et grâce à ces festivals, c'est aussi l'occasion de revoir un peu cette histoire et de redécouvrir ces films. Je vous remercie beaucoup, Shweta Bakan Nanda, d'avoir pris le temps de nous parler de la carrière de votre père. Et je vous souhaite une bonne fin de festival.
Merci beaucoup.
Merci. Un grand merci également à Martine Hamon pour la traduction. Et pour en découvrir plus sur ce cinéma indien, je vous conseille aussi de faire un tour jusqu'à fin janvier au musée du Quai Branly à Paris pour l'exposition Bollywood Superstar. Sachez par ailleurs que le fils de Shweta Bakan Nanda, Agastya Nanda, est lui aussi acteur et qu'on le verra prochainement sur Netflix dans la série The Archies, adaptée de l'univers d'Archie Comics que les fans de Riverdale connaissent bien. Et pendant ce temps, d'autres films du monde se préparent et si Revue et Corrigée, certes un média consacré au cinéma classique, nous ne nous excluons pas de temps en temps de jeter un œil vers l'avenir et c'est pour ça que nous avons rendez-vous avec Lucas Taillefer, le coordinateur des ateliers Produire au Sud que les Trois Continents organisent depuis plus d'une vingtaine d'années. Nous voici à l'Hôtel de France, de retour avec Lucas Taillefer, coordinateur des ateliers Produire au Sud, des ateliers qui, en gros, je vais dire ça de manière assez simple, permettent d'encourager, de développer la coproduction internationale avec des réalisateurs, des porteurs de projets, des producteurs venant des trois continents, représentés par le Festival des Trois Continents. Alors, il y a un programme ici à Nantes, mais il y a aussi des programmes partout dans le monde. Il y a quoi comme pays? Déjà, bonjour à vous, Lucas Taillefer.
Bonjour, bonjour Pierre.
Il y a quoi comme pays, comme lieu dans lesquels vous participez, vous organisez des ateliers?
Alors, en plus de Nantes, on réalise ce même genre d'atelier dans différents pays avec des appels à projets spécifiques, donc régionalisés. Donc, par exemple, on est en Afrique du Sud, à Durban, en collaboration avec un festival pour des projets africains. On est à Taïwan avec des projets d'Asie du Sud-Est, en Inde avec des projets d'Asie du Sud. Donc cette année, on a fait aussi un atelier au Brésil pour des projets brésiliens, au Paraguay pour des projets Cône Sud. Voilà, donc à chaque fois, en fait, on a des ateliers comme ça qui sélectionnent des projets régionaux. En fait, avec aussi cette idée que évidemment, l'atelier se concentre sur la coproduction internationale, notamment avec les pays européens, mais sur les ateliers régionaux, on insiste aussi beaucoup sur la coproduction régionale, avec cette idée que peut-être un film, ça fait plus sens qu'il fasse une coproduction avec un pays voisin que forcément avec l'Europe, ou d'ailleurs les deux peuvent être possibles aussi.
Oui, sachant que l'atelier Produire au Sud peut être une sorte de hub, de lieu de rencontre, et qui permet en fait qui crée cette connexion entre différents protagonistes, différents producteurs.
Alors oui, tout à fait. Effectivement, nous, le terme de rencontre est bien choisi parce que c'est vraiment ça qu'on a envie de faire. C'est de créer des rencontres entre des personnes. Et en général, c'est ce qui marche beaucoup dans les ateliers, les rencontres entre les différents participants qui ne viennent pas de même pays et qui, tout à coup, non seulement apprennent les uns des autres, mais également, pourquoi pas, pourraient travailler dans le futur en interprojet, on va dire.
Alors l'an passé, on avait discuté ensemble de ce dispositif Produire au Sud, et je vous invite, si vous souhaitez en comprendre un peu plus en détail, d'écouter notre podcast de l'an passé aux Trois Continents. Mais si là, on prend des exemples précis, par exemple là, ici à Nantes, cette année, il y a combien de projets? C'est quoi comme type de personnalité, de nationalité qui sont représentés?
Alors du coup, cette année, on a six projets. On a toujours six projets. On sélectionne toujours six projets à Produire au Sud, à Nantes et globalement un peu partout. Six projets, c'est peu parce qu'on tient énormément à cette dimension familiale, on va dire, de prendre peu de projets pour pouvoir les accompagner vraiment le plus profondément possible. Donc six projets, ça fait 12 personnes puisqu'on invite toujours un binôme producteur ou productrice et réalisateur-réalisatrice pour les accompagner sur la stratégie de production mais également sur le scénario et sur le développement du scénario. Cette année, on a donc plusieurs pays représentés. On a l'Afrique du Sud, le Brésil, la Birmanie, la Turquie, le Sri Lanka et voilà. C'est déjà pas mal.
C'est déjà pas mal. Et justement, c'est donc un binôme réalisateur, producteur. Vous sélectionnez comment? Est-ce que c'est leur profil? Est-ce que c'est le projet en lui-même? Qu'est-ce qui fait que c'est eux et pas d'autres?
Alors, on les sélectionne sur projet. Donc, c'est-à-dire qu'on fait un appel à projet qui est ouvert en gros tous les ans entre avril et juillet. Et on reçoit une grosse centaine de projets. Donc, c'est des projets qui sont à différents stades de développement, évidemment. Certains ont déjà un scénario, d'autres n'ont qu'un traitement ou qu'une ébauche plus ou moins développée. Et donc, on sélectionne par projet, mais par contre, on demande qu'il y ait toujours sur le projet la figure du réalisateur ou réalisatrice et la figure du producteur ou productrice. Et que du coup, ce soit un binôme déjà formé une fois qu'ils arrivent à Nantes. Mais on parlait de rencontres il y a quelques secondes. C'est vrai aussi que des fois, Produire au Sud permet la rencontre effective de ces deux figures-là dans un même espace pendant une semaine, alors que par ailleurs, dans leur pays, ils peuvent avoir d'autres projets, leur vie, tout ça, et donc pas forcément réussir à se poser pendant une semaine à travailler. Et là, on leur donne le cadre pour vraiment, voilà, pendant une semaine, ils sont ensemble pour travailler ensemble sur un même projet.
Donc là, ils sont à Nantes, justement. C'est quoi leur programme? Qu'est-ce qu'ils font au jour le jour, là, ici?
Alors, on a commencé à travailler dimanche matin. Donc nous sommes mardi, si je ne m'abuse, et on a commencé vraiment un tour d'horizon de ce qu'est la coproduction internationale, d'abord en session plénière en fait avec tout le monde. Qu'est-ce que ça veut dire faire de la coproduction internationale? Qu'est-ce que ça implique en termes de budget, en termes d'histoire, mais aussi en termes de temps? En fait, parce que la coproduction faire un film, c'est toujours du temps long. Faire une coproduction internationale, c'est vraiment du temps long, on va dire. Et ensuite, on alterne avec des sessions individuelles, où en fait, là, chaque binôme rencontre chaque intervenant. Donc, on a deux producteurs européens, deux scénaristes européens, un vendeur international. Et donc voilà, ils rencontrent chacun de ces intervenants pendant une heure et demie à peu près pour là travailler vraiment spécifiquement sur leur projet avec un accompagnement vraiment personnalisé.
Donc le but c'est qu'ils approfondissent leur projet, ils développent leur projet, ou est-ce que c'est vraiment l'idée de je sais pas, signer des contrats là maintenant tout de suite?
Non, vraiment l'idée c'est qu'ils développent le plus possible leur projet. Nous on n'est pas du tout un atelier qui débouche sur un résultat concret. Parce qu'on sélectionne des projets qui sont quand même un développement assez tôt dans l'étape de développement. Et donc du coup, on les accompagne pour qu'ils développent structure précise leur projet, tant en termes de production qu'en termes de scénario. Et après, c'est aussi l'idée de leur donner des outils concrets. Donc des documents, des modèles de contrats, tout ça, pour qu'ils ils comprennent et ils sachent concrètement ce que ça veut dire faire une coproduction internationale et quelles sont les portes qui pourraient s'ouvrir sur leur projet spécifiquement. Et après, il y a autre chose qui est important aussi, c'est que Produire au Sud leur apporte aussi un réseau. Parce que donc, les ateliers Produire au Sud ont 23 ans. Comme je le disais tout à l'heure, il y a beaucoup d'ateliers dans le monde, donc ça fait finalement une somme assez conséquente de participants et participantes qui sont passés par Produire au Sud. Et d'intervenants avec qui on travaille à droite à gauche. Et du coup, ça veut dire que ça crée un réseau qui est Produit au Sud fonctionne comme aussi un espèce de je sais pas comment dire de d'outils en fait pour mettre en relation toutes ces personnes entre eux. Et ça c'est quelque chose qui est très très important dans les ateliers.
Et donc les producteurs qui participent là, c'est des producteurs qui n'ont pas forcément l'habitude de faire des coproductions internationales.
Alors si, justement.
Non, si.
C'est des producteurs qui ont les enfin, vous parlez des intervenants ou des...
Non, je parle des participants.
Ah oui, pardon. Alors les participants, non, pas forcément. Après, évidemment, nous, on leur demande pas d'avoir ou ne pas avoir fait une coproduction, peu importe, pour au moment de la sélection. Mais certains l'ont fait une fois ou deux, d'autres l'ont pas du tout fait. Et en fait, peu importe, parce que en fait, les producteurs intervenants, là, pour le coup, avec qui on travaille, eux sont vraiment des spécialistes de la coproduction. Et donc, en fait, voilà. Il y a quand même toujours beaucoup de choses à apprendre et à apprendre. Quoi.
Oui, parce qu'il y a une dimension formation, quelque part, qui est très importante. Là, la prochaine étape, après cette semaine, c'est quoi pour eux, du coup?
Ah bah alors là, pour eux, c'est vraiment... alors, encore une fois, c'est très spécifique à chacun, mais en gros, c'est vraiment continuer à travailler sur leur scénario. Le scénario, c'est quelque chose qui est quand même très, très important. On sait qu'on ne va pas réussir à convaincre un potentiel partenaire international avec un scénario un peu bancal, donc il faut travailler le plus possible le scénario. Et après, mettre en pratique en fait, tous les outils qu'on leur donne, aller chercher des informations, se déplacer dans des marchés internationaux, trouver le moyen de se déplacer dans des marchés internationaux pour rencontrer des gens. On leur dit qu'on est quand même une industrie qui se base énormément sur le réseau. ça va vraiment fonctionner sur qui connaît qui et avec qui on peut se mettre en contact et surtout voilà, rencontrer des gens pour voilà, se faire un réseau, se faire de l'expérience et pouvoir du coup mener à bien le projet du film qui est réparti en gros entre le travail sur le scénario, la recherche de financement et les rencontres. Et je pense que cette dimension rencontre, c'est quelque chose qui est vraiment très important et qu'on leur répète sans cesse qu'il faut vraiment bouger en fait pour aller à la rencontre des gens.
Et vous continuez à les suivre durant toutes ces étapes, à voir un peu le chemin qu'ils font ?
On essaye. Y a beaucoup de projets dans l'année. Là, donc rien qu'en sur cette année, on a accompagné plus de 60 projets. Et donc ça veut dire plus de 60 de projets qu'il faut suivre.
Et
ça tous les ans. Exactement. Et donc du coup, on essaye quand même de les suivre, de voir un peu où ils en sont. On leur demande des nouvelles, mais aussi surtout, on leur demande à eux de nous donner des nouvelles sur leur film, et en général ils le font assez naturellement. Je reçois régulièrement des mails ou des messages en me disant là on rentre en production, ou alors là on a fini le tournage, ou tout simplement le film est terminé et il va faire sa première internationale dans tel festival. Et ça, c'est toujours quelque chose qui nous plaît énormément, cette dimension de suivi, parce que du coup on voit finalement le travail un peu qu'on fait et le travail accompli quoi. Donc c'est très intéressant là-dessus.
Tous les projets qui arrivent ici à un stade assez premier de préparation, ils aboutissent finalement, ou c'est quoi la proportion de...
Alors, la proportion est très compliquée à calculer justement parce que y a beaucoup, beaucoup d'ateliers, il y a beaucoup de films, il y a beaucoup de projets, et que aussi il y a des réalités nationales très, 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 très différentes. C'est évident que c'est plus facile. Et encore que, mais bon, de faire un film dans certains pays et moins dans d'autres. Je pense à notamment certains pays d'Afrique subsaharienne où c'est plus compliqué, il n'y a pas de fonds, mais c'est aussi compliqué en Inde de faire un film parce qu'il n'y a pas vraiment de fonds. Enfin bref, il y a tout ça, donc ça dépend. Mais en gros, on avait calculé qu'on est quand même à un peu plus de 35% de films réalisés, ce qui en soi peut paraître pas tant que ça. Mais finalement, au vu de ce que je viens de dire, du contexte, des réalités, de fonds et de possibilités dans les différents pays, est quand même assez, assez important. Et on augmente le pourcentage un peu, on ne recalcule pas tous les ans le pourcentage, mais voilà.
Si on prend les six films, les six projets de cette année, pourquoi est-ce que vous les avez choisis, ceux-là ? Est-ce que c'est le potentiel artistique ? Est-ce que c'est le potentiel international ? Qu'est-ce qui fait qu'un projet finalement vous intéresse ?
Alors en fait, on a un comité de sélection qui est composé d'un vendeur international, d'une productrice pardon, qui fait de la coproduction internationale et en général d'un ou une scénariste. Et donc on essaye vraiment de sélectionner les projets tant sur leur dimension artistique et d'histoire, on va dire, que vraiment sur leur cohérence, on va dire, de production. Pas forcément sur leur potentiel, parce qu'on n'en sait pas rien en fait à ce stade-là, mais vraiment sur leur cohérence de production, la cohérence du dossier en fait. Essayer de voir à quel niveau ils en sont. On reçoit certains dossiers où des fois, il y a vraiment pas grand-chose et on voit qu'on va pas, en une semaine, on va pas pouvoir combler ces lacunes-là. Par contre, sur d'autres projets, on voit qu'il y a quelque chose, même s'il y a des erreurs, même si c'est pas toujours forcément hyper bien présenté, on sent qu'il y a la possibilité. Évidemment, on se base aussi beaucoup sur les travaux précédents des réalisateurs ou réalisatrices pour voir un peu s'il y a une vision, s'il y a quelque chose, si ça peut devenir un film à un moment ou à un autre, ce projet. Évidemment, sur le profil aussi de la partie production. Mais donc, en fait, on essaye de jauger un peu tout ça. Après, évidemment, on a aussi des considérations à Nantes, notamment, comme c'est le seul atelier de Produire au Sud qui est ouvert vraiment sur les trois continents, tous les pays des trois continents. Évidemment, on essaie de faire un peu un équilibre entre continents, essayer aussi de sélectionner des pays, enfin des films qui viennent de pays qu'on n'a pas eu depuis longtemps à Produire au Sud, parce que c'est important de ne pas avoir toujours les mêmes histoires, les mêmes nationalités. Et là, par exemple, cette année, on est super content d'avoir un projet turc et un projet birman, ce qui nous est pas arrivé depuis quand même très très longtemps. Et on était agréablement surpris de voir les candidatures arriver, que les projets étaient bons. Et donc, c'est très très plaisant en fait de pouvoir aussi mettre à l'honneur des pays qu'on voit pas souvent en fait dans les ateliers et ni même dans les films terminés finalement.
Vous parlez de la dimension vraiment internationale de l'atelier nantais. C'est vrai que c'est assez fou au-delà de l'importance de du réseau. Bah, au-delà effectivement des rencontres qu'ils font, il y a des rencontres qu'ils font entre eux. Quoi, cette espèce de classe internationale, ça doit être intéressant à observer. Cette rencontre de plusieurs nationalités qui se rencontrent autour de projets cinématographiques.
Alors oui, c'est vraiment passionnant la rencontre des différentes cultures à travers les projets cinématographiques. C'est passionnant, surtout que vraiment il y a une ambiance dans les ateliers produits au Sud où en fait, étant donné qu'on est vraiment ensemble tout le temps pendant de longues heures, et donc oui, je veux vraiment être témoin de cette rencontre de différentes cultures autour de projets cinématographiques. C'est quelque chose qui est très plaisant, qui fonctionne bien. Les ateliers produits au Sud sont propices à ça. Parce qu'en fait, on est peu déjà, on est tous au même endroit pendant de longues heures avec les intervenants et intervenantes. Et du coup, ça crée un espèce de cocon un peu et qui est assez protégé. Et du coup, le groupe souvent se crée assez rapidement et les échanges se font très rapidement avec des personnes très différentes d'abord et des personnes qui connaissent pas forcément vraiment la culture des autres pays. Voilà, entre un Brésilien et un Birman, ben, c'est pas les mêmes réalités, c'est pas les mêmes contextes, et surtout on fait en sorte qu'il y ait des échanges formels entre eux sur les projets de chacun, et ça c'est important parce que du coup tout à coup avoir la vision d'un Brésilien sur un projet birman, et ben finalement c'est ça aussi qui enrichit le projet.
C'est des gens de quel âge, enfin je pose un peu une question bête, mais c'est vrai que c'est... On est sur des niveaux d'âge un peu homogènes ou pas forcément?
Alors ça dépend vraiment, on est sur de l'émergence, mais qui ne veut pas forcément dire des jeunes en termes d'âge. Donc ça dépend vraiment, là en gros on est sur une amplitude qui est quand même assez large, mais en gros c'est 25-45 on va dire. Après... Voilà, les personnes qui sont un peu plus âgées auront un peu plus d'expérience et c'est vachement intéressant de faire ça aussi parce que c'est-à-dire que les personnes un peu plus expérimentées vont aussi être un peu une locomotive pour le reste du groupe parce que du coup ils vont intervenir aussi en partageant leur propre expérience. Et du coup, l'idée c'est que l'atelier soit le plus interactif possible et les intervenants et intervenantes qui sont des professionnels, eh ben, en fait, ne sont pas des professeurs, c'est des professionnels mais au même titre que les participants et participantes, c'est juste qu'ils ne sont pas au même niveau, disons, d'expérience, mais c'est tout. On est vraiment entre professionnels. Et donc c'est pour ça qu'on tient vraiment à la formation professionnelle, on n'est pas une école. On est vraiment une formation professionnelle qui encourage la rencontre et le partage d'expérience. Et tout à coup, quand on a dans les participants, là par exemple je pense à une participante qui est un tout petit peu plus expérimentée que les autres, parce qu'elle a déjà fait des coproductions internationales, et ben tout à coup ça porte aussi le groupe et ça crée de l'échange. Et ça peut créer aussi de la contradiction. Tout à coup, dire, là, je ne suis pas complètement d'accord avec tel ou tel intervenant qui a dit quoi, parce que selon mon expérience. Et du coup, ça crée du débat. Et c'est ça qui est intéressant, parce que encore une fois, entre professionnels, l'idée, c'est de tous nous faire avancer.
Ils restent en contact après ?
Souvent. Ouais. Alors, des fois, ils restent en contact à travers les ateliers, donc à travers la coordination. Mais des fois, oui, ils restent en contact et ils se recroisent en festival. Moi, je sais qu'à chaque fois que je me déplace en festival, j'essaie de voir un peu s'il y a des ex de Produire au Sud. Et souvent, j'en croise. Et des fois, même sans le savoir, j'en croise. Et c'est toujours très plaisant de les recroiser ici ou là.
Et la question de la parité est aussi un des enjeux pour vous. C'est vrai, quand on pense au cinéma du monde, il y a des pays où on est encore très 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 loin de cette parité-là. Vous êtes aussi peut-être un acteur pour, je sais pas, la favoriser.
Alors, on est très attaché effectivement à la parité, donc on essaye au maximum de créer un équilibre sur la parité. Après, c'est vrai que des fois... Je ne cache pas que c'est compliqué parce qu'il y a certains pays où justement il y a une écrasante majorité d'hommes qui font du cinéma tout court, qui réalisent ou qui produisent. Et on ne veut pas non plus ne pas sélectionner un projet d'un pays qui par ailleurs peut être peu représenté parce que c'est aussi une réalité. Mais par contre, oui, on est très attaché quand même à créer un équilibre. Et globalement, on y arrive quand même très souvent.
Et vous dites que vous êtes content d'avoir effectivement cette année des projets de pays qui étaient plus rares les années précédentes. Là, par exemple, si on pense à l'année prochaine ou dans le futur, il y a des pays pour lesquels vous avez un regard peut-être plus attentif, qui sont moins ou qui a moins de projets qui sont par exemple présentés tout simplement.
Alors c'est vrai qu'il y a, on reçoit très peu de projets de, enfin, là par exemple je pense à l'Amérique latine, on reçoit très peu. Bizarrement, très peu de projets, enfin bizarrement, non, pas si bizarre que ça, mais de projets mexicains par exemple, et parce que le Mexique a quand même déjà une grosse industrie, tout ça, donc ils n'ont pas forcément besoin de nous, mais on en reçoit peu. Après, on reçoit très peu de projets d'Amérique centrale, et ça, c'est quelque chose qui m'intéresserait. Amérique centrale, Caraïbes, c'est quelque chose qui m'intéresserait beaucoup, des projets jamaïcains, des projets cubains, des projets du Costa Rica, de Puerto Rico, tout ça, on en reçoit quand même très peu, et c'est quelque chose qui est intéressant. La région andine est en général souvent surreprésentée par la Colombie. Et moins par l'Équateur ou le Pérou, donc c'est quelque chose aussi auquel on est attentif. Sur Asie centrale, des projets kirghizistans ou de toute cette partie-là, on en reçoit peu. Là, cette année, on a un projet turc, donc c'est super. L'Afrique, c'est vraiment un continent sur lequel on essaye vraiment d'avoir une... On regarde vraiment les projets qui arrivent. Donc l'année dernière, on avait un projet camerounais et on était super content d'avoir un projet camerounais. Et d'ailleurs, on est d'autant plus content qu'en fait, elle est la réalisatrice de ce projet de fiction qui n'est pas encore réalisé et aujourd'hui en compétition cette année au festival avec son documentaire précédent.
Ah oui, oui. Okay.
C'est Cyrielle Ringoux. Qui était donc avec un projet qui va rentrer en production là bientôt, qui s'appelle I'm Coming For You. Et elle est en compétition cette année au Festival des Trois Continents avec son documentaire Le Spectre de Boko Haram. Et voilà, bah ça on est très fiers parce que c'est une participante de Produire au Sud en fait.
Mmh. Oui, je suis étonné pour la Turquie, parce que c'est vrai que c'est peut-être un peu la même problématique que le Mexique, mais c'est un pays comme ça, on se dit, où on voit... régulièrement des films turcs qu'on connaît tous, des réalisateurs turcs importants. C'est un pays qui a une industrie, une histoire aussi industrielle du cinéma assez importante, mais pourtant vous recevez peu de projets de Turquie.
C'est vrai, on reçoit peu de projets de Turquie. C'est je sais pas exactement à quoi c'est dû. Après, c'est peut-être aussi dû justement au fait qu'il y a une industrie un peu plus forte, ouais. Et que du coup ils se disent qu'ils n'ont pas forcément besoin d'un atelier de formation un peu plus initial, on va dire, et qu'ils vont aller plutôt vers des ateliers plus tard dans la chaîne de développement, je veux dire. Mais c'est un peu le même cas que le Mexique, en fait. C'est-à-dire qu'en fait, c'est des pays qui ont déjà une industrie. Alors, c'est pas les mêmes réalités, hein. Attention, entre la Turquie et le Mexique en termes cinématographiques, même en termes politiques aussi. Mais je pense que c'est aussi des pays qui se sont pas forcément tournés comme ça, de manière instinctive, vers un atelier de coproduction internationale, quand même centré sur la coproduction internationale avec l'Europe. Voilà. C'est pas une réponse hyper satisfaisante pour moi-même, je veux dire. Donc je pense qu'il y a plein de raisons très, très différentes, quoi.
En tout cas, ça doit être un travail passionnant de découvrir ces projets qui sont aussi à l'image des portraits de plein de pays, de plein de réalités, de plein de nationalités. Un peu comme ce qu'on voit aussi, évidemment, ici, en compétition ou hors compétition au festival des Trois Continents. Bien, merci beaucoup, Lucas Taillefer, nous avoir parlé des ateliers Produire au Sud. Et puis, bon courage pour cette semaine. Vous êtes jusqu'à quand avec les ateliers ?
On est avec les ateliers jusqu'à samedi.
Jusqu'à samedi, donc une bonne semaine.
Voilà, exactement. Merci beaucoup, Pierre.
Revue et corrigée, La Grande Vadrouille, c'était un podcast proposé par Revue et corrigée en partenariat avec le Festival des Trois Continents. Ces deux épisodes étaient réalisés depuis Nantes et on vous dit à très vite pour d'autres voyages.